Alors, merci de tourner dans nos Bibles en Jean chapitre 20. Et donc, comme ça fait plus qu'une semaine, donc sachez que nous sommes maintenant à la conclusion de cet évangile. Et tout a été écrit, c'est Jean qui l'a dit, verset 31 de notre chapitre ce soir, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, tous les 20 chapitres précédents vont nous amener à ce verset-là, qui est vraiment le sommet de tout l'évangile. Et la semaine prochaine, nous verrons plutôt un épilogue. Et donc, c'est le grand crescendo. Alors, j'aimerais juste vous poser la question pour commencer. On a revu l'évangile selon Jean et l'évangile où Jésus est présenté comment? C'est quelle qualité que nous voyons Fils de Dieu, exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais juste voir Jean chapitre 20 et je ne vais pas essayer de harmoniser tous les autres évangiles parce que, comme vous le savez, ils sont 4 distincts évangiles, mais qui racontent la même chose, mais d'un différent point de vue, un petit peu comme un témoin d'un accident. Chacun voit à sa manière, de son point de vue, mais ce sont des mêmes circonstances. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des différences, des petites divergences. Mais comme Jean écrivait avec un point précis, donc c'est ça que j'aimerais vraiment relever. Donc ce soir. Alors, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, et comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau, elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors là, quand même, il faut quelques explications. Alors, si on se rappelle, il était crucifié, donc le jour de préparation. Le lendemain était un sabbat. Alors, le jour de préparation était considéré comme un jour saint. C'était le jour où l'agneau pascal est égorgé et cuit, en fait. Et c'était aussi le jour où Jésus est crucifié. Alors, pendant ce temps-là, donc, c'était impossible de faire un travail. Donc ça, c'est pourquoi les femmes n'ont pas pu arriver au tombeau avant. Mais dès qu'elles pouvaient, elles arrivent. Là, dans Jean, nous ne parlons qu'une seule femme, et c'est Marie-Madeleine. Et on va voir pourquoi plus tard. Là, on parle aussi de la pierre. Et il ne faut pas imaginer une simple pierre, voire caillou. Non, en fait, c'était quand même une grosse pierre qui pesait parfois même une tonne. Hein. Et on se rappelle aussi qu'il y avait beaucoup de polémiques autour du tombeau de Jésus. Justement, il y avait Nicodème et Joseph d'Arimathée qui se sont levés, on a vu ça il y a 2 semaines, pour procurer le corps de Jésus, donc pour l'enterrer, et nous savons aussi, grâce aux autres évangiles, qu'il y avait une garde mise pour garder le tombeau. Alors, normalement, quand Marie et les autres arrivent, elles attendent qu'il y ait justement des gardes, au moins que la pierre soit mise sur place. Alors, quand elles arrivent et elles ne voient rien du tout, eh bien, on peut croire aussi, en voyant d'autres évangiles, que peut-être elle a vu les anges et tout. Bon, ça c'est peut-être à voir avec l'évangile selon Matthieu, mais surtout le fait de ne voir rien, ça choque, parce que elle ne croyait pas, elle ne comprenait pas encore l'écriture qui disait que Jésus devait ressusciter. Alors, quand t'en penses que quelqu'un a volé quelque chose, Où est la première place où on va? La police. Sauf, attention, c'était la police qui gardait le tombeau. Alors, quand il n'y a pas de police, et surtout pas de notre côté, où est-ce qu'il faut aller? Bah, pour ces femmes, c'était simple, elles vont direct voir les disciples. Et bah, les disciples, comme les hommes normaux de toute la planète, certainement, en entendant ça, n'ayant rien compris, ils se déplacent, mais certainement dans leur tête, ils pensent, bah, évidemment, ces femmes se sont trompées de tombeau, et il n'y a rien à voir, donc on va leur montrer ce qu'il y en a. Et donc, ils arrivent en pleine confiance, certainement, et ils arrivent et ils ne voient rien non plus. Et regardez ce qu'il y en a, parce que il est intéressant. Pierre et l'autre disciple, ils sortent pour aller au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au tombeau. Et on peut aussi imaginer que maintenant il fait un peu plus lumineux. Et donc on voit de loin que, effectivement, comme les femmes ont dit, il n'y a rien, et il y a tout l'adrénaline aussi qui ajoute. Hein. Jean, qui était plus jeune, et bon, ça explique, bon, c'est intéressant que quand même il a ajouté ce petit détail qui laisse parfois croire que peut-être il y avait un petit camaraderie, enfin, une petite plaisanterie entre eux, je sais pas, mais je suis sûr que c'était fait avec amour. Alors, il dépasse Pierre, il arrive, et qu'est-ce qu'il voit? Il regarde, il voit que des bandelettes et rien de plus. Et Simon-Pierre, donc, qui arrive après, il entra dans le tombeau, bon, peut-être un peu froissé parce que l'autre est arrivé avant. Bon, lui, il s'enfonce et il va jusqu'au bout. Il entre dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. L'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Alors, il voit les bandelettes et tout aplati. Et ce n'est pas déchiré, ce n'est pas un grand pagaille, non, mais tout est mis en ordre. Et en plus, ce qui était autour de la tête est mis à part, mais roulé. Comme si, encore, à passer au-dessus ou par-dessus, au travers même de ces bandelettes. Et ça, c'est le premier signe. Ça, c'est une chose absolument essentielle à retenir. Parce que si c'était quelqu'un qui volait, d'abord, il fallait qu'il batte tous les gardes, puis qu'il roule la pierre. Et après avoir roulé la pierre, il n'aura pas le temps ni la force de le faire aussi bien que ça. Alors, c'était une preuve que Jésus a passé au travers de ces bandelettes, qu'il est ressuscité. Jean, il voyait ces choses et il croyait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il n'avait pas encore compris les Écritures. Donc il croyait que quelque chose s'est arrivé, que Jésus n'était pas là, que peut-être, oui, Jésus s'est ressuscité, oui, il s'est relevé, il n'était pas là, mais il n'avait pas tout à fait compris. C'était un peu comme l'espérance qui est ramenée en lui. qui a retrouvé vie. Et ça, c'est aussi un signe de la divinité de Jésus. Le fait que il se relève des morts et il a tout à fait préparé le terrain pour que il n'y ait rien sauf deux témoins. Parce que selon la loi, il faut deux témoins. Et deux hommes, encore plus. Et qu'est-ce que nous avons là? Parfaitement orchestré par le Seigneur de la vie, on a les deux hommes, les deux témoins qui arrivent et qui voient les choses exactement comme il faut. Encore, le Seigneur de la vie est celui qui est au contrôle et qui dirige toutes choses merveilleusement. Alors, ils voient. Et puis, ils s'en retournent chez eux. Bon, certainement, ils en parlent, et qui sait ce qu'ils disent. Mais ce qui nous intéresse, c'est verset 11, « Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau, et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. » Alors, là, je trouve absolument fascinant, parce que là où devait être le corps, là où il n'y avait personne, du coup, il y a deux anges. Et elle n'est pas effrayée, mais elle regarde et hop, ben, il y a deux personnes. Nous savons qu'elle est remplie d'émotions. En fait, grâce au dernier verset de Marc chapitre 16, nous savons que Marie-Madeleine était guérie d'une possession démoniaque. Elle avait cet esprit démoniaque en elle. C'est Jésus qui la délivrait. Alors, c'était une femme qui aimait beaucoup son Seigneur. Plein d'émotions, elle regarde et puis elle voit deux anges. Encore, rappelons-nous que cet évangile est pour nous convaincre que Jésus est Dieu, le Fils. Et qu'est-ce que nous voyons? Un espace plat avec deux anges, un à chaque côté. Et là, au milieu, où devait être le corps de Christ, mais il est ressuscité. Et est-ce que ça vous fait penser à quelque chose dans l'Ancien Testament, dans le désert avec Moïse, une boîte totalement couverte d'or, et au-dessus de cette boîte, il y avait deux anges. Et entre les deux anges, il y avait l'espace qu'on appelle la propitiatoire. La propitiatoire, c'est là où Dieu parlait, justement, à Moïse, ou bien à Aaron et les fils d'Aaron. Propitiatoire qui veut dire payer la dette de, ou bien comme la colère de Dieu était provoqué contre nous à cause de notre péché, Jésus, il est mort sur la croix pour payer notre dette que nous avons méritée. Mais la résurrection, c'est la preuve que Dieu a exaucé et a même agréé son sacrifice. La preuve de sa résurrection, là, dans la place de la propitiatoire. Encore, nous voyons la magnitude de ces symboles si forts. Ce n'était pas un hasard que c'était décrit ainsi, mais pour nous rappeler de qui on parle, que c'est bien Jésus qui est le Christ, le Fils de Dieu. Marie n'a pas encore saisi, elle ne se rend même pas compte qu'elle parle aux anges. Verset 12, Elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce que on a enlevé mon Seigneur. Je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Alors, retournant maintenant dans le tombeau, alors il y avait cette scène magnifique, mais du point de vue des anges, ils voient Jésus derrière elle. Elle pleure. Elle dit, mais attendez, pourquoi est-ce que tu pleures? Il est là, derrière toi. Enfin, elles ne disent pas, mais pourquoi tu pleures? Alors, elle se tourne contre elle-même et baf, elle est face à face avec Jésus. Mais elle est tellement émue qu'elle ne voit pas. Et voyez encore pourquoi les émotions ne sont pas fiables. Les émotions, certes, elles sont fortes. Et il y a des moments où l'émotion, enfin, elles sont justes puisque ça vient de Dieu. Dieu aussi, il décrit dans l'Écriture en tant que celui qui réjouit, celui qui est patient, celui qui pleure, celui qui protège, celui qui se met en colère. La Bible parle des émotions. Et nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous aussi, nous avons des émotions. Mais comme il est dit, en psaume 4, dans votre colère, ne péchez pas. Il y a des moments où, à cause de notre péché, les émotions peuvent être un obstacle et même peuvent nous piéger. Et voilà le cas de cette dame qui aimait énormément son Seigneur, mais tout à fait piégé par ses émotions. Je pense que si on pouvait aller là, sur place, lui donner un micro en disant « Marie, Madeleine, comment tu te sens maintenant ?» Elle va dire « Terrible parce que on m'a enlevé mon Seigneur et je suis totalement perdu. Alors la seule chose qui me reste, qui me vaut quelque chose dans ma vie, est enlevée. » Et puis l'intervieweur va se dire « Mais alors, qui est celui-ci ? » Vous voyez à quel point, encore, les émotions trompent, parfois. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Et pensant que c'était le jardinier, il lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Alors, ce qui est aussi intéressant à noter, oui, « Rabouni », ça veut dire « maître », mais avec une petite précision, en hébreu, ça veut dire « mon maître ». C'est comme, elle dit, « Ah, c'est mon maître ». Bah, tu es là, maître, tu es celui que je cherchais tout ce temps. Et quelle était la chose qui a fait ce déclic dans son esprit? C'était son nom. Parce que les brebis de Jésus, bah, ils entendent sa voix, ils le suivent. Et le bon berger appelle ses brebis par leur nom. C'est Jésus qui l'a dit en chapitre 10. Et là, il le met en œuvre pour que nous voyons. Marie, il appelle par son nom. C'est merveilleux. Et c'est pourquoi il y a certains qui disent, et notamment je cite J.V. Maggie, qui disent que c'est pour cela que je pense, quand nous verrons le Seigneur face à face, je suis certain qu'il nous appelle par notre nom. Pourquoi pas? Voyons que c'était tout ce qu'il fallait. En psaume 139, nous voyons à quel point le Seigneur pense à ces personnes. Dans cet psaume qui décrit les détails de la création, comment Dieu tisse une personne dans le ventre de sa mère, et tous les détails de cette personne sont connus de Dieu même avant la conception. Et nous voyons les pensées que Dieu a pour chaque individu, à quel point il nous aime, à quel point il nous connaît aussi. Il connaît notre nom. Alors, ça c'est encore tu le Fils. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alors, j'aime bien ce qu'ils disent. C'est encore plus descriptif dans le langage originel. C'est la conjugaison des verbes et le verbe même qui est utilisé. Quand Jésus dit « ne me touche pas », en fait, c'est plus exact de dire « arrête de t'attacher à moi » ou de voilà, c'était ça, c'était de, d'embrasser moi. Le verbe peut même être traduit « attaquer », « arrête de m'attaquer », comme ça. Donc ça nous donne une image mentale de ce qui s'est passé réellement. Dès qu'elle a vu, elle a entendu son nom, elle crie « Rabouni », elle se jette sur lui, elle embrasse de toute sa force et elle ne veut plus le relâcher. Encore l'amour qu'elle avait pour son maître. Mais pourquoi est-ce qu'il dit « ne me touche pas » Est-ce que c'est parce qu'il avait quelque chose qui n'était pas encore fait et puis il allait se souiller à cause de ses mains? Non. Pas du tout. Il est ressuscité en pleine gloire. Et en fait, le fait qu'elle embrasse ses pieds est une preuve qu'il était une personne physique, réelle, que son corps ressuscité est physique. Non, je crois que la réponse est plutôt en ce qu'il dit après. Va et dire à mes frères. C'est énorme ça. C'est la première fois dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, où il appelle ses disciples ses frères. Avant, c'était ses amis, mais maintenant, c'est ses frères. Et pourquoi ses frères? Le livre aux Hébreux nous a dit, c'est parce que il a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Donc, comme c'est accompli, la dette est payée. Maintenant, ils sont frères. Et va vers mon Dieu et votre Dieu, mon Père et votre Père. Autrement dit, la relation a changé. C'est nouveau. Et donc, ce n'est pas la peine, Marie, de t'attacher à des anciennes choses, à des anciennes relations, à ces anciennes images, à cet ancien truc, l'ancienne alliance où tout est physique et basé sur la loi, où je mérite mon entrée au ciel par les bonnes choses que je fais. Donc maintenant, tout est basé sur la grâce, sur le sacrifice accompli et agréé de Jésus. Il est ressuscité plein de gloire. Il introduit maintenant cette nouvelle relation. Seulement Dieu peut faire une chose pareille. Seulement Dieu peut réconcilier l'homme avec le Père. Et donc, il faut maintenant qu'elle s'adapte à cette nouvelle relation qui est supérieur, où Dieu habite en elle et en nous. Et donc, c'est pour ça que l'évangile selon Jean va directement à ce qui s'est passé le soir, parce que les autres évangiles, à ce moment, parlent d'autres choses. Mais ici, là, comme on a mis l'accent sur la personne de Christ, pour que nous croyions, donc regardons ce qui arrive tout de suite après. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, la même journée, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Mais fermées, donc personne ne pouvait entrer. Eh bien, Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Certainement, il a dit « Shalom », ce qui veut dire cette même chose. « Que la paix soit avec vous ». Et n'est-ce pas touchant? Parce que qu'est-ce qu'il a dit le soir avant sa crucifixion? Ma paix, je laisse avec vous. Je vous donne ma paix, mais pas comme le monde donne. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Parce que dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ce qu'il a dit. Et maintenant, il entre ressuscité en gloire, il franchit la porte, mais la porte est toujours fermée, et il dit Shalom, que la paix soit avec vous. Et, quand il eut dit cela, il en montra ses mains et son côté, et les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Encore, ils voient qu'il est physique. Mais encore, rappelons-nous du fait que il a traversé les bandelettes. Mais, et quand il a vu Marie, Marie pensait qu'il était le jardinier. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'elle a vu Jésus, il était tellement affaibli par tout ce qu'il a subi. Et en plus, il était nu parce qu'on a complètement dénué la personne. Et on a vendu tous ses vêtements. Quand elle a vu, il s'est vêtu. Et bah, d'abord, d'où vient ses vêtements? Et encore plus, il était en pleine forme. Pas comme quelqu'un meurtri comme avant. Et là, encore la même chose. Puis, nous voyons qu'il y a les plaies toujours dans ses mains, dans son côté, qui sont un signe pour nous de son amour pour nous tous. C'est intéressant que Jésus, le premier de ressusciter entre les morts, il garde toujours ses plaies, alors que nous, quand nous serons ressuscités, nous recevrons un corps glorieux et sans défaut. Mais il va plus loin. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Première chose, que la paix soit avec vous, il souffle sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Chose très importante. Parce que, qui peut donner le troisième personne, si ce n'est Dieu lui-même? Et encore plus, une chose intéressante, c'est que ce mot « souffler » n'apparaît qu'ici, dans le Nouveau Testament. Mais dans le Septuagint, donc la traduction grecque de l'Ancien Testament, ce mot apparaît deux fois. Et devinez lesquels? Quand? Oui, effectivement, quand Dieu a soufflé et donné la vie à Adam. Première fois. Et deuxième fois, on n'a pas encore étudié, donc c'est en Ézéchiel, quand Dieu souffle sur la vallée des ossements et les os prennent vie. Alors, c'est clair dans le premier exemple, parce que là, nous voyons que l'homme reçoit la vie. Et donc, ça nous donne une idée que les disciples reçoivent la vie du Saint-Esprit. Mais c'est encore mieux dans Ézéchiel, parce que là, c'est clair, puisque c'est Ézéchiel qui le dit en chapitre 7, 37 d'Ézéchiel, que c'est l'Esprit Saint qui le fait. Et donc, quand il souffle, c'est l'Esprit Saint. Encore, ici, il souffle sur eux et ils reçoivent l'Esprit Saint. Il y a des grands enseignants bibliques que je respecte énormément qui disent par contre que non, en fait, il n'a pas vraiment donné l'Esprit Saint ici, c'était tout simplement un symbole. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment difficile à digérer, parce que j'ai vraiment du mal à imaginer mon Seigneur en apparant aux disciples en disant recevez l'Esprit Saint, et puis, ah, j'ai plaisanté. En fait, ça va arriver 50 jours plus tard, au jour de Pentecôte. Non, j'ai toute confiance en celui qui a dit que la lumière soit, et elle fut. Quand il dit recevez l'Esprit Saint, ils l'ont reçu. Alors, ça nous enseigne quelque chose sur le Saint-Esprit. D'abord, quand on a vu, il y a quelques semaines, que l'Esprit est avec vous. Il est dans le monde pour convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Jean chapitre 16. Donc il est dans le monde, il est avec nous. Alors là, quand il souffle sur eux, donc ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là où ils naissent de nouveau. Exactement comme nous voyons en Éphésiens chapitre 1, le dépôt du Saint-Esprit, recevant le Saint-Esprit le moment où nous croyons. Mais Jésus parlait de ce moment de Pentecôte, de cette puissance d'en haut qui vient sur nous. Et c'est pour faire le ministère. Parce que qu'est-ce qui s'est passé le jour de Pentecôte? Est-ce qu'ils se sont réjouis et oui, mais est-ce que c'était seulement pour eux, pour Pierre et pour Jean et les disciples, ils avaient juste une fête du Saint-Esprit, comme on dit, dans certains milieux? Non. Le jour même, ils sortaient dans les rues et ils parlaient à tout le monde avec une puissance extraordinaire et les gens se sont convertis. C'était une puissance d'en haut pour faire le ministère de Christ. C'est pour ça qu'il y a cette onction donnée pour le ministère. Et donc nous voyons, il y a un troisième exemple, un petit peu à l'image de ce que Jésus a dit lorsqu'il a parlé de ces eaux qui jaillissent de nos seins et que ça déborde et déverse sur tout le monde. C'est ça la puissance d'en haut. C'est pour servir Christ. Et notez le bien qui dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. D'abord, il faut qu'il reçoive le Saint-Esprit. Parce que on ne peut rien pour Christ si on n'est pas né de nouveau. Comme Jésus a dit à Nicodème, personne ne voit le royaume de Dieu si né de nouveau. Donc maintenant, ils sont envoyés. Est-ce que, donc, verset 23, ça veut dire que, comme il parlait à Pierre, donc il donnait ses ordres à Pierre, et donc Pierre, ce qu'il a reçu, il a partagé à ces gens qui venaient après lui, et ça vient de petit Pierre après petit Pierre, jusqu'à ce que eux, ces prêtres ont seulement le droit de pardonner les péchés. Je crois que c'est un peu poussé, parce que d'abord, ils disent, je vous envoie comme j'ai été envoyé. Et deuxièmement, oui, il leur donnait une onction spéciale. Et il faut dire que oui, dans le livre aux Actes, il y avait des moments où, par exemple, avec Ananias et Saphira, Pierre avait une certaine onction et il a dit une chose et puis il y avait des gens qui sont morts là sur champ. Il avait une capacité qui venait du Saint-Esprit pour voir dans le cœur des gens. Mais notez-le bien, c'est pas Pierre qui le disait de lui-même, mais il ne disait rien d'autre de ce que le Seigneur lui a révélé. Donc il y avait une certaine onction spéciale de ces apôtres, mais Jésus était envoyé pour faire quoi? Pour chercher les brebis perdues, les ramener au Père. Et qu'est-ce qu'il nous a envoyé à faire? D'aller partout dans le monde et faire des disciples de toutes les nations. Et quand nous présentons l'Évangile, nous donnons l'occasion à chaque personne de le recevoir, donc de recevoir le pardon des péchés, ou bien de le rejeter et rester dans la condamnation. Et je crois que ça, c'est beaucoup plus fidèle au texte et de cet envoi dont Jésus parle. Parce que, comme il a été déjà dit dans les autres évangiles, il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. Pour moi, pardonner les péchés de notre, c'est comme, ben, imaginons, il y a un match de tennis et les deux joueurs, ils jouent ensemble et puis il y a un des joueurs qui rate le coup et puis moi qui ai un observateur, moi, je me lève et je dis, ben, je te pardonne. Mais je lui pardonne de croire. C'est pas moi qui a raté, c'est lui. Et il n'a pas péché contre moi. Donc, avoir un homme qui veut méditer entre Dieu et les hommes n'a aucun sens. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul. Il est le seul qui convient. Il est le seul qui le mérite. Et donc, il est le seul qui puisse donner une telle mission. Alors ça continue. Thomas, appelé Didyme. Didyme qui veut dire jumeau. L'un des douze qui n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Et là, j'aimerais juste souligner. Le gros problème de Thomas était verset 24. Certes, il doutait, et certes, ça lui a poussé vers l'incrédulité, mais c'est verset 4, son véritable problème. Il n'était pas là, là où il devait être, alors que les autres ont été réunis, là où il devait être le premier jour de la semaine. Certainement, il a entendu les mêmes choses, il a entendu l'appel pour la réunion, mais lui, qui était amer à cause de tout ce qu'il a vu. Bon, les autres aussi étaient émus et amers à cause de ce qui s'est passé avec Jésus. Mais eux, par contre, ils ont décidé d'aller à la réunion et aller dans l'assemblée avec et pour être avec les autres. Alors que Thomas, non. Lui, il a décidé, par contre, de s'isoler et de rester tout seul. Et ça, c'est pourquoi Thomas, il a raté son grand jour. Et les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Alors ce sont 10 hommes dignes de confiance. Ce sont ses camarades pendant 3 ans. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt à la place de ses clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Bon, en scientifique, on dirait. Lui, il veut quelque chose de palpable. Et peut-être aussi, il est un peu jaloux. Peut-être il se dit, mais quand même, est-ce que je ne vaux pas aussi bien qu'un Pierre ou les autres? Donc, nous voyons son attitude n'était pas bonne. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être le Seigneur a travaillé son cœur, ou peut-être les autres disciples l'ont amené à la réunion, mais Jésus vint. Et les portes étaient fermées. Et bien, et debout au milieu d'eux, il leur dit, Shalom, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Notez bien, il n'a pas dit arrête de douter. Il dit ne sois pas incrédule, qui est beaucoup plus fort. Bon, il ne fait pas de grands reproches, mais il dit tout simplement arrête cette incrédulité. Et ça montre à quel point on peut commencer avec l'amertume, la déception, et on peut tomber dans un espace de 8 jours dans l'incrédulité totale. Ça passe vite. Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur répète ces mots. Alors, comment est-ce que Jésus a su que Thomas a dit ces choses? Ben, c'est facile, les autres, ils ont prié. Ou bien, puisqu'il est Dieu, il ne les a pas écoutés et entendus lui-même, parce qu'il était là. Exactement comme on a vu en Jean chapitre 1, lorsque Jésus a dit à Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Alors là, c'est encore plus clair. Il était là, il voyait, parce qu'il est Dieu. Alors, il lui donne sa chance. Et donc, c'est là où je rejoins le message qu'on a eu, qu'on a entendu dimanche, qui est maintenant en ligne. Si vous l'avez raté, il est superbe, que Marc a fait. C'est tellement beau comment Dieu a utilisé la faiblesse et la défaillance d'un homme pour montrer sa grâce, parce que ça c'est la grâce. Et grâce à cette défaillance, nous avons des preuves aussi concrètes que ça, de sa résurrection. Et ça va encore plus loin. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est pas comme il a dit, mon Seigneur, et puis il commençait à prier, oh, et, oh mon Dieu. Non, non. Dans le texte originel, ça coule, tel qu'il est en français, mon Seigneur et mon Dieu. Il parle à une seule personne, Jésus reçoit la louange. Et donc, il dit clairement qu'il croit qu'il n'est pas seulement le Seigneur, il est Dieu lui-même. Et Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. En fait, je crois qu'il y a plein de détails qu'on n'a pas dans les évangiles. Et certainement, ce sont des détails qui sont venus plus tard dans les épîtres de Jean, par exemple, ou les épîtres de Pierre, ou des choses que ont été révélées à Paul aussi. D'autres détails, parce que ça ne vient qu'une seule source, et c'est de Jésus lui-même, bien évidemment. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a juste ce qui vient de lui. Et bien, ceci, donc, est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, comme Thomas a cru que Jésus est le Christ, donc il est le Messie, le Fils de Dieu. Il est le Christ, donc il est le Seigneur, le Fils de Dieu, donc Dieu. Et donc, en croyant, vous avez la vie en son nom. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes plus heureux, parce que nous n'avons pas à voir Jésus pour croire. Comme Pierre disait dans son premier épître, « Heureux êtes-vous puisque vous l'aimez sans l'avoir vu. » Ça, c'est notre héritage, ce que nous avons. Et ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Le Seigneur lui-même donne son bénédiction là-dessus, sur la foi de ceux qui ne le voient pas. Parce que la foi et la vision, ce n'est pas la même chose. Mais le juste vivra par la foi. Et donc ça, c'est vous, ça, c'est moi, si nous croyons dans le Christ ressuscité. Amen. Prions.